C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Alors, bienvenue à tous. On est revenu de notre périple aux États-Unis, mais cette semaine, c'est notre ami Alain qui, lui, va revenir bientôt du côté de l'Europe. Il est à Vienne pour un sommet technologique avec Huawei, compagnie que vous connaissez, qui sont dans les, entre autres, la téléphonie cellulaire. Et il y a eu, évidemment, l'épisode des deux Michael au Canada qui a duré très longtemps, qui a fait jaser beaucoup de monde. Salut Alain, comment tu vas?
Ça va très bien, toi, et toi-même, Benoît?
Ah ben absolument. Parle-nous un peu, là, juste pour situer les gens. T'étais parti faire quoi exactement, là? On parle de Huawei,
ben, mais c'est... Comme tu dis, je suis venu voir des... Huawei, c'est une grosse compagnie internationale. Hein. On les connaît, nous, au Canada, pour les raisons qu'on sait, là, les deux Michael puis Mme Wanzhou.
Oui, mais ils font d'autres choses, hein?
Ils font effectivement plein d'autres choses, puis ils ont une nouvelle stratégie, mon Dieu, comment je dirais ça, de commercialisation. Ils essaient de se distancier des opérations plus équipementiers 5G, parce qu'évidemment, ça va pas très bien de ce côté-là, et de se présenter comme un fabricant grand public. Ils ont une stratégie un peu pour imiter ce que fait Apple avec ses Apple Store, et ils s'en viennent, entre ce qu'ils disent, ils s'en viennent avec ça dans les prochains mois ou années, là, dépendamment comme la COVID évolue, là, mais
ouais.
On va en parler un petit peu plus dans le proche futur, puis ça va être intriguant de voir comment les gens vont réagir, parce que je sais pas à quel point cette marque-là est premièrement connue, deuxièmement aussi si elle est connue positivement ou pas. Là.
Ouais, ben c'est ça le problème, c'est que Huawei a eu beaucoup de publicité négative et beaucoup de rejets. Hein. On sait qu'il y a plusieurs pays, le Royaume-Uni entre autres, plusieurs pays de la communauté européenne qui ont littéralement mis de côté la compagnie Huawei pour le 5G. Les États-Unis aussi l'ont fait récemment, donc ça... On doit changer un peu son plan d'affaires à partir de ça. Hein? Il faut regarder ailleurs. Exact. Hey Alain, cette semaine, pour revenir à nos moutons, on va parler pas une fois, mais on va parler deux fois de VTT dans une émission de char. C'est pas rien, ça. Hein? C'est quand même pas l'habitude. On va avoir un peu plus tard comme invité Monsieur Théron, en fait, qui est lui... à la tête d'une compagnie qui porte son nom, qui a été fondée en 2016, fabrique au Québec un VTT électrique. Je vais vous laisser ça pour tantôt. On va en parler, Alain et moi, en entrevue. Mais d'abord, dans ton actualité, tu vas nous parler de VTT. Puis rappelle-nous de quoi tu vas nous parler à ton essai routier plus tard.
Écoute, c'est un petit peu plus gros qu'un VTT. C'est une Mini Cooper édition John Cooper Works. On compare souvent ça à un go-kart, hein, parce que évidemment, c'est une voiture, mais je veux dire, il y a un petit format le fun sur ce véhicule-là. Puis l'édition John Cooper Works, c'est l'édition un peu plus performante. Donc,
ouais, que j'ai essayé aussi, fait que je pourrais me glisser dans la conversation. Moi, je vais parler du MX-30, dont j'avais pas encore parlé à l'émission. Le premier véhicule électrique de la famille Mazda. Donc ça va être à la fin de l'émission. Mais bon, on disait qu'on allait parler deux fois de VTT, ben la première fois, et c'est une compagnie par laquelle on s'attendrait pas à parler VTT, Lexus. Parle-moi un peu de ça. Lexus ont présenté un VTT à hydrogène.
Oui, qui est assez intéressant. Et on fait ça, en fait, en marge du dévoilement du LX, le gros VUS. On en a parlé la semaine dernière, parce que c'est comme le cousin germain du Tundra, là, du Toyota Tundra.
Exact.
Donc, la camionnette de Toyota, parce qu'il y a les mêmes composants sous le...
Oui, c'est le même châssis, même moteur. Bon, évidemment, on a un peu renforcé la calibration au niveau de la suspension pour le Tundra, parce qu'évidemment, en étant capable de remorquer 12 000 livres, ça prend un véhicule qui est capable de supporter aussi. Mais à la base, le châssis, la suspension indépendante, le moteur ou les moteurs, parce qu'on a deux fois un 3,5 litres, ça va être la même chose, effectivement.
Yes, puis dans ce contexte-là, bien évidemment, on parle aussi beaucoup de véhicules électriques, puis Toyota est pourtant un peu un leader dans ce créneau-là. Puis quand on parle de Toyota, de voitures électriques, de gros véhicules et de futurs, on arrive rapidement parler d'hydrogène. Et ce qu'ils ont voulu faire en présentant le LX, qui est un véhicule qui peut remorquer des charges, ils ont présenté un VTT qu'on pourrait remorquer avec un LX, mais qui était surtout fait autour d'un concept original de moteur à combustion d'hydrogène. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le développement actuel de ces technologies-là, parce qu'on parle beaucoup évidemment de voitures électriques, et quand on parle d'hydrogène, on voit surtout une pile à combustible, donc une pile à hydrogène qui remplacerait la pile au lithium qu'on a dans les véhicules actuels. Pour alimenter un moteur électrique traditionnel, disons, comme on en voit déjà sur la route, disons. Alors, chez Lexus, quand on présente ce moteur à combustion-là, ce moteur à combustion à hydrogène-là, c'est intéressant parce que ça reprend un concept qui était développé sans avoir été vraiment mis de l'avant par d'autres fabricants il y a 10-12 ans à peu près. Je pense à Ford, BMW et Mazda,
ouais,
entre autres.
On avait développé ce genre de moteur-là, oui.
On avait un moteur rotatif qui était vraiment pertinent parce qu'il était à combustion d'hydrogène, mais il était aussi à essence, c'est-à-dire que dépendamment de ce qu'on avait besoin, on faisait un plein d'essence ou un peu d'hydrogène, on pouvait passer d'un à l'autre sans avoir à changer le moteur ou l'auto, là, c'était vraiment comme dans le même véhicule. Et ça, il y a une petite notion intéressante là, de transition, parce que quand on parle des 10 prochaines années, on le sait, le monde automobile risque de changer de façon assez substantielle. Et ce VTT-là, ben, c'est un petit peu ça qu'il incarne, là, sans avoir évidemment, sans rentrer dans le détail de ce qu'il est comme tel. Ça reste un véhicule tout-terrain à deux places, un peu comme on en connaît déjà là, du côté des Can-Am, entre autres. Mais justement, ce moteur hydrogène-là permettra d'avoir des jouets performants, d'or route, mais donne aussi une idée de ce que ça pourrait devenir pour des petits véhicules, éventuellement, l'utilisation de l'hydrogène pour remplacer l'électrique, si on veut, ou l'essence. Évidemment, le problème que cette solution-là, c'est que moteur à combustion d'hydrogène, comme l'hydrogène actuel, dans la plupart des cas, est produit à partir de gaz naturel et que c'est une solution qui est à peu près aussi polluante que de produire de l'essence, ben, il n'y a pas d'avantage concret. Mais si un jour on arrive à produire le fameux hydrogène bleu, là, celui qu'on produit à partir de l'eau et de l'électricité,
exact,
comme on veut faire à Varennes, entre autres.
L'hydrogène propre, là.
Exactement. On aura peut-être une solution intéressante.
Oui,
et
puis
moi, je fais un clin d'œil comme ça à BRP parce que ça me semble que c'est le genre de projet qu'une compagnie comme BRP devrait.
Oui, puis l'hydrogène, Toyota y croit. C'est pas tout le monde qui y croit.
Exact.
C'est une filière qui est encore à développer. En fait, la technologie est connue. On sait comment ça fonctionne. On en a vu des produits, tu l'as dit tantôt, Ford, BMW, Mazda. D'ailleurs, Mazda, je me rappelle très bien d'un concept qui fonctionnait justement à partir de l'eau, qu'on avait présenté au salon de Tokyo. Si ma mémoire est bonne, c'était en 2001. Là. J'essaie de me rappeler les années où je suis allé là-bas.
Ouais, ben ça fait au moins une quinzaine d'années, moi aussi.
Oui, oui, oui. Évidemment, c'est un concept. Ça, c'est à pas aller plus loin. Mais l'idée de le faire à partir de la, si tu veux, de la déconstruction de la molécule d'eau, est un projet fort intéressant, puis je pense qu'on veut travailler de ce côté-là. On a même essayé du côté de Toyota un petit modèle Yaris Sport avec un moteur à hydrogène qui fonctionne comme un moteur à essence, là, qui n'est pas une pile à combustible, et on veut pousser sur ce côté-là de la chose. Alors ça risque d'être intéressant. Autre nouvelle que tu nous as amenée, moi je savais pas que Herbert Diess et Elon Musk étaient deux chummy-chummy. Il paraît qu'ils se connaissent, non seulement ils se connaissent bien, mais Musk a déjà offert à Herbert Diess de venir diriger Tesla.
C'est oui, puis ben M. Diess, c'est le PDG de Volkswagen, donc c'est assez étonnant. Je serais curieux de savoir, parce que l'histoire le dit pas, comment ils se sont à la base rencontrés, comment Elon Musk, qui est évidemment le PDG de Tesla, a pensé à cet homme d'affaires-là pour diriger Tesla, parce qu'il y a un petit bout de temps, là, on le sait, Musk était président, il avait comme deux rôles très importants, puis bon, il a tweeté des affaires qu'il aurait peut-être pas dû, puis là, le conseil de Tesla a dit non, retire-toi des opérations, puis là, pendant un bout de temps, ils ont considéré le remplacer comme PDG. Finalement, ça s'est pas réglé de cette façon-là, mais ça aurait été une occasion puis de considérer quelqu'un comme M. Diess. Et là, Diess, qui est aujourd'hui PDG de Volkswagen, a utilisé cette connexion-là pour, durant une rencontre des dirigeants de Volkswagen, pour faire une petite surprise aux dirigeants, parce que Volkswagen, c'est le plus gros groupe automobile, ou en tout cas, c'est un des trois plus gros, ça dépend des trimestres.
Ça dépend de l'année, t'as GM, Toyota ou Volkswagen, là. Ça se promène toujours dans ces trois-là.
Puis le défi pour un groupe comme Volkswagen, c'est de demeurer un géant industriel tout en faisant cette transition-là dont on parlait il y a une actu à peine, dans le fond, c'est que d'ici 10 ans, ça va s'électrifier, puis il va arriver plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'a fait M. Diess pour motiver ses troupes? Ben, il a invité son bon ami Elon Musk sur scène. Musk est donc apparu sur un écran à ses côtés de façon virtuelle, par téléconférence. Monsieur Diess a demandé à Musk sur scène qu'est-ce qui explique le fait que dans toute l'industrie automobile à l'heure actuelle, il y a juste un constructeur qui est capable de hausser ses ventes et que ce constructeur-là, c'est Tesla. On le sait, on en parle depuis des semaines, il y a une pénurie de puces électroniques qui est très importante et qui ralentit mais l'automobile.
Oui, mais ça n'a pas l'air à ralentir Tesla tant que ça. Hein?
C'est fou. Et pendant ce temps-là, Tesla, d'un trimestre à l'autre, ils battent leur trimestre précédent en termes de résultats. Donc, quelque chose qu'ils font bien. Alors, Musk a dit tout simplement, il faut pas avoir peur de prendre des risques. La raison pour laquelle la pénurie de puces embête moins Tesla, c'est qu'on a réagi en quelques semaines à peine et les programmeurs ont réécrit les logiciels qui animent les véhicules pour qu'ils fonctionnent avec deux ou trois processeurs seulement au lieu de la vingtaine de processeurs qu'on compte d'habitude.
Donc là, ils ont été capables de faire ça.
Ouais, mais ça demande une certaine audace. Ça demande évidemment une espèce de culture d'entreprise où les ingénieurs sont capables de se retourner sur un dissous.
Ce qui n'est pas le cas d'un GM, d'un Toyota ou d'un Volkswagen, on s'entend.
Exactement. Moi, je ne mets pas des noms, mais tu as bien raison.
Non, mais
tu as
7 étapes à franchir, 23 personnes à qui parler pour adresser ton problème, puis eux autres en ont autant à qui parler avant de pouvoir savoir par où va passer le problème. Alors, par le moment où le problème arrive à quelqu'un qui peut le régler, il y a 2 ans qui viennent de passer.
c'est très vrai. Puis souvent, la solution au problème, c'est qu'on en rajoute. T'sais, on rajoute des gugus.
Alors, c'est ça.
Parce que si Musk a clairement dit le contraire, il a dit « Essayez de voir comment vous pouvez faire plus avec moins. » Puis quand on y pense, ce sont là de très sages paroles qu'on pourrait appliquer à bien d'autres choses aussi.
Absolument.
Voilà.
Autre nouvelle que je voulais souligner cette semaine, Demers Ambulance et Lyon Électrique ont dévoilé la première ambulance 100% électrique fabriquée au Québec. Donc, ça va être fabriqué, c'est un modèle qu'on avait déjà du côté de Lyon. Et on a le modèle 5, là, pour ceux qui suivent. Et on a adapté, évidemment, ça en véhicule ambulancier. On n'a pas dévoilé de prix, mais c'est pas une ambulance qui sera abordable. Mais sauf que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a conçu l'ambulance pour être utilisée littéralement à l'échelle planétaire, c'est-à-dire que ça sera pas uniquement pour le Québec. On l'a mis au point ici. Mais c'est un modèle qui peut être vendu. Bon, on sait que le marché de Lyon, on est produit un peu partout dans le monde. Demers Ambulance offre déjà ses produits dans 43 pays en dehors de l'Amérique du Nord. Donc, on est déjà en Europe, on est déjà en Australie, on est déjà en Asie. On prévoit être capable de livrer au moins 1500 ambulances au cours des 5 prochaines années. Donc, c'est quand même un nombre d'ambulances intéressant. Évidemment, autant du côté de Demers que du côté de chez Lyon, on dit que c'est évidemment une journée intéressante, très, très encourageante. On va se mettre là-dessus et tenter de faire avancer ce projet-là. Mais c'est bon de le souligner parce que c'est une compagnie, en fait, deux compagnies de chez nous qui ont mis au point des véhicules fort intéressants. Et dans un autre ordre d'idées, ceux qui attendaient le Ford Maverick hybride, parce que là, on a le Ford Maverick à essence, qui, ironiquement, qui est le modèle en option, parce que le modèle de base, c'est le modèle hybride. Va falloir attendre à janvier avant que les modèles arrivent, parce que pour le moment, on a encore des petits problèmes de production. On a réglé aussi et ajusté la consommation du véhicule. Imagine, on annonce pour le modèle hybride une consommation moyenne de 5,6 litres au 100, quand même. Pour un petit camion, c'est plus que bon, là. C'est même assez extraordinaire. Qui dépassait, on avait estimé à 5,88. Puis là, on dit qu'en fait, les ajustements qui vont être faits au moteur, qui vont faire en sorte qu'il va arriver un petit peu plus tard, va améliorer la consommation. On rappelle que on offre ce véhicule-là à un prix de départ là, qui est à près de 21 500 $, donc qui est pas trop cher. Donc, ça va être fort intéressant, mais faut attendre à janvier avant de voir les premiers modèles. Voilà, c'est tout pour nos petites actus de la semaine. Alain, reste avec nous. On va passer à la pause et au retour, on aura notre invité de la semaine.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, on est revenu, deuxième partie de l'émission. Vous le savez, traditionnellement, on reçoit nos invités dans cette deuxième partie d'émission. Et aujourd'hui, on sort un petit peu des sentiers battus. C'est un beau jeu de mots, d'ailleurs. On va recevoir le président, directeur général et fondateur de la compagnie Théron, Monsieur Bastien Théron, qui est installé depuis déjà quelques années du côté de Shawinigan. Et on fabrique là-bas des quads, des VTT. D'abord, bonjour, Monsieur Théron. Merci d'être avec nous.
Ben, bonjour, M. Charrette. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Bon, alors, parlez-nous pour les gens qui ne connaissent pas la compagnie Théron. C'est quoi exactement? Ça a été fondé quand? Et comment on a parti cette idée-là de faire un quad électrique fabriqué au Québec?
Exact. Fait que, dans le fond, Théron, nous, on a fondé la compagnie en 2016. Avec le but justement de faire des véhicules hors route électriques. Pourquoi des véhicules hors route électriques? Ben, on avait, en fait, on a toujours été passionnés de véhicules hors route, déjà, premier point. Puis on a à cœur l'environnement et on est amené à la réalisation qu'il n'y avait aucun, mettons, produit sur le marché qui pouvait combler les deux passions. Un véhicule hors route de base, conventionnel à gaz, ça fait du bruit, ça pollue énormément. C'est des petits moteurs, donc les normes d'antipollution sont pas présentes là-dessus. Il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas tout ça.
Exact. C'est un peu comme une tondeuse, si on veut, ou d'autres produits comme ça, de petits moteurs qui sont pas gérés par à peu près aucune règle, donc souvent qui polluent même beaucoup plus que les voitures, là.
Exact, c'est vraiment ça, et c'est vraiment paradoxal parce qu'on est dans un environnement vraiment en pleine nature, on veut être là pour faire communion avec la nature, donc c'est le petit accro qu'on avait, et en début 2012, je pense qu'on a essayé notre premier véhicule électrique.
Ça fait presque 10 ans, là.
Exact, ça fait, oui, exactement, et ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on a réalisé à ce moment-là, c'est que l'électrification des transports, c'est vraiment supérieur. C'est plus de fun à conduire et il y a vraiment un agrément de conduite supérieur.
Ouais, puis je pense le couple qu'on a beaucoup avec les moteurs électriques doit être absolument intéressant dans des véhicules comme ça parce qu'on travaille beaucoup plus en couple qu'en puissance avec des VTT là.
Tout à fait, tout à fait. Et ça donne un contrôle. Je dirais que en plus de la puissance, c'est la performance qu'on va avoir. Le sentiment d'accélération, c'est aussi le contrôle que ça nous donne, puisqu'on n'a pas de transmission. On est en entraînement direct.
Ben oui.
Comme on peut voir sur les voitures, c'est la même chose avec les voitures électriques. Et ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle à basse vitesse, de pouvoir autant en randonnée que ça va être agréable, autant pour le travail ça va être super utilisé ce couple-là.
Puis là évidemment comme c'est un moteur électrique, il y a aussi une très bonne capacité de remorquage. Il y a beaucoup de gens qui utilisent VTT pour amener du bois, traîner une remorque et amener toutes sortes d'objets parce que c'est pour beaucoup de gens un objet de travail un VTT. Là.
C'est ça, exactement. Puis c'était vraiment notre mode d'ordre de conception. Fait que notre premier produit qu'on fait, c'est un VTT qui s'appelle le River. Et c'est un VTT qui a la particularité d'être très polyvalent. Fait qu'on va vraiment de faire de la randonnée tout comme aller faire du travail ou aller à la chasse avec. C'est ce qu'on veut. C'était vraiment dans les critères de conception. Et on est donc capable de remorquer des remorques de plus de 500 kilos. En fait, ça va dépendre.
Ah oui, mon Dieu, quand même.
C'est quand même gros.
Ah oui, non, c'est beaucoup pour un VTT quand même. Il y a des autos qui traînent même pas ça, 500 kilos. C'est bon.
Exact. Et pour donner un peu des chiffres, dans la version 4 roues motrices, on est à 560 Nm de torque directement aux roues qui passent au sol.
Ah oui, OK.
Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir cette bonne capacité de remorquage-là.
Bon, là, parlez-nous. Bon, vous avez parlé du River. Est-ce que pour le moment, c'est un modèle unique, c'est-à-dire qu'il y a une motorisation électrique ou si vous pensez avoir ce qu'on appelle des side-by-side ou faire des moteurs un peu plus gros ou un peu plus petits pour répondre peut-être à différents critères?
Ben, c'est ça. Notre premier produit, c'est le River. Par contre, en fait, le powertrain, le groupe motopropulseur en bon français, lui, c'est quelque chose qui est modulable. Fait que la plus grosse partie de la conception, ça fait bientôt 5 ans là, qu'on existe, qu'on a starté, et la plus grosse partie, ça a été de réaliser ce groupe motopropulseur-là.
Right.
Une fois que lui il est fait, le récupérer pour faire d'autres véhicules, comme justement des side-by-side, un autre type de quad. On a aussi en tête de faire ce qu'on aimerait bien, c'est à long terme d'arriver jusqu'à faire un 3 roues sur route, ce que concurrencer le Can-Am Spyder que on a beaucoup apprécié dans le temps. Quand on l'avait j'en avais même un, donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un bon une bonne base pour se lancer sur le reste, et bien entendu les performances sont aussi modulables, la puissance peut-être facilement adapté. Pour l'instant, notre River est disponible en un moteur ou 3 moteurs. Pour avoir le 2 roues motrices ou le 4 roues motrices. Fait que déjà, vous pouvez comprendre que on a de la capacité de mettre de la puissance.
Donc, je pense que votre plus gros, les 3 moteurs, ça donne quoi? Je pense 70 chevaux à peu près?
Fait que c'est 70 forces, ouais. Exactement. C'est 70 forces, puis qu'en fait, les moteurs pourraient monter jusqu'à 100 forces, mais c'est la limitation va provenir de la batterie à ce moment-là. Les batteries ont aussi des puissances, des ratings de puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet vraiment de moduler la puissance entre l'avant et l'arrière, dépendamment de ce qu'on veut avoir, et dépendamment de de la conduite qu'on a appris. Et ça fait aussi partie de notre logiciel dans le véhicule qui permet de changer des personnalisations des modes de conduite. Donc, quelqu'un, mettons, moi, j'aime ça que le véhicule ait un petit peu plus de traction sur l'avant. Je vais pouvoir le setter avec un mot de passe à moi, puis ça va être cette configuration. Oui. Mais vous autres, vous l'aimez plus en propulsion. Ben, vous êtes capable de le moduler puis d'avoir votre configuration en propulsion.
Autre question, Bastien Théron. Les gens qui sont dans l'électricité ont toujours la première question, c'est de dire, c'est quoi l'autonomie? On peut aller jusqu'où et c'est quoi l'autonomie qu'on a avec le Reaver en ce moment?
Exact. Donc, on a deux autonomies, puis on a deux choix, dépendamment de la batterie qui est dedans. Bien entendu, ça va changer le prix du véhicule et on s'en va jusqu'à 180 km d'autonomie.
Ça, c'est avec les trois moteurs, ça?
Ça, c'est avec... c'est la version... La plus longue autonomie, ça va être le 1 moteur la grosse batterie.
Le 1 moteur avec la grosse batterie, ça, c'est 180 km. Si on prend une 4 roues motrices avec les trois batteries, on tombe à quoi à ce moment-là?
On tombe à 160.
OK, excuse. Bon, ce qui n'est pas une grosse perte, là. C'est pas...
Exactement. C'est plus que conséquent. On a eu des communications avec la Fédération québécoise des clubs de quad, puis ils nous ont vraiment signalé que de leur donner la randonnée moyenne d'une journée, c'est 120 km.
Bon, et là, allez-y.
Ben, je voulais dire, dans la journée, ça veut dire qu'il y a un arrêt pour manger.
Oui, exact. Donc,
puis
la question que j'avais à partir de ça, parce que on est en route assez souvent, les sentiers fédérés au Québec... emprunte en bonne partie les sentiers de motoneige l'hiver. Est-ce qu'on a pensé du côté des fédérations d'installer des bornes de recharge dans les sentiers?
Dire que c'est en cours.
C'est vraiment en cours.
On n'est pas les seuls dans ce domaine-là, ce qui fait que le projet est déjà en cours. On a déjà été, on a eu certaines communications nous aussi de notre côté pour augmenter ce réseau-là. Bien entendu, on est une jeune compagnie, donc il faut aussi avoir les moyens de nos ambitions.
Ouais.
On a une approche qui est assez incrémentale, mais je peux vous certifier que c'est en cours.
Mais là, dans la région de Shawinigan, vous pourriez aller voir nos amis de Ad Energy, de Flow, qui sont pas loin de chez vous, puis qu'une petite jasette, puis peut-être installer des bornes en sentier.
En fait, les personnes qui s'occupent de ça vont être plus proches de Trois-Rivières.
Ah, d'accord. Autres,
c'est des manufacturiers.
Ouais.
Mais ça prend des personnes qui font la gestion de projets pour mettre les bornes en place. Et je suis pas sûr que ça ait été annoncé au public, mais bref, je sais que c'est une personne c'est une compagnie qui est à Trois-Rivières, là, qui s'occupe
de ça. Bon, ben tant mieux. Et la question qui tue, Bastien Théron, ça coûte combien, Reaver?
Donc, c'est à partir de 15 000 $.
OK.
Dépendamment de la version, en fait.
Bon, si on compare un modèle à essence, disons, équivalent, là, ça serait quoi la différence de prix?
Ben, on est vraiment dans la même braquette. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de véhicule équivalent, puisqu'on a un véhicule qui est vraiment polyvalent, sport utilitaire, deux places, 70 forces directement aux roues. On va se trouver dans les 1000 cc dans la concurrence à gaz. Donc, on va vraiment chercher du véhicule qui commence à partir d'environ 13 500 à 14 000 $ et qui peut monter dépendamment des options jusqu'à 18 000 à 19 000.
OK. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse différence, là.
Non, exactement. Non.
OK. Ah ben, c'est intéressant. Et là, bon, au niveau de la commercialisation, est-ce qu'on a déjà commencé à vendre le Reaver? Si on en veut un, on va voir ça où? Est-ce qu'il y a des concessionnaires d'installer quelque part? Comment ça fonctionne tout ça?
Exact. Jusqu'à présent, pour l'instant, on est en précommande sur notre site Internet.
OK.
C'est notre site Internet, d'ailleurs, qui est www.theron-ev.com. C'est la précommande permet de réserver sa place dans la production. Actuellement, on est rendu que la production va commencer à l'automne 2022. En fait, les premières livraisons au public vont commencer à l'automne 2022.
OK.
Puis, dépendamment, bien entendu, de l'ordre dans les précommandes. On va avoir certaines unités qui seront des unités de pré-production que vous allez pouvoir revoir rouler au courant du printemps 2022, surtout dans le bout de Shawinigan, Trois-Rivières. Pour l'instant, on a des partenaires ici qui veulent avoir ces unités-là avant.
OK. Question d'essayer de voir tout ça, j'imagine.
Exactement. Et la livraison, on n'a pas de concessionnaire en tant que tel. Fait que c'est vraiment de la commande en ligne, c'est de la livraison à domicile.
OK.
Et on met sur pied, par contre, un réseau de places de service, c'est-à-dire que d'endroits où est-ce que vous pouvez amener votre véhicule pour le faire réparer si jamais il y a des problèmes. C'est sûr que réparer un véhicule, ce type de véhicule-là, il n'y a à peu près pas d'entretien à faire dessus. Puis ça va être de la mécanique standard que vous allez avoir sur les débouchings.
Oui, bon, c'est ça. Il y a quand même des pièces, hein, on s'entend, qui se retrouvent sur d'autres VTT, mais au niveau du moteur, ça va être moins d'entretien. Et vous êtes-vous fixé, Bastien Théron, des objectifs au niveau des ventes? Dire, bon, ben nous, pour que le projet soit rentable, il faudra en vendre, je ne sais pas moi, 150, 200 par année ou si on est plus loin que ça, là?
Fait que notre projet, notre objectif, c'est 300 par année.
OK.
C'est notre objectif de démarrage de base. Et ensuite, on ajustera la capacité de production en fonction du besoin.
On vise les marchés canadiens, américains, j'imagine, ou on va aller au-delà de ça?
On va aller au-delà, on va aller rentrer jusqu'en Europe. On a déjà d'ailleurs des contacts en Europe, on a déjà des personnes intéressées. C'est sûr que pour aller en Europe, c'est un petit peu différent. Les quatre roues sont utilisées pour aller sur la route en Europe.
Oui, c'est ça, on peut les rouler sur des routes publiques, là, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits au Canada ou aux États-Unis.
Exactement, donc les normes sont un petit peu différentes, mais on travaille là-dessus. Dans le fond, il y a beaucoup de choses dans le véhicule qui sont faites pour que ce véhicule-là puisse aller sur la route. On aimerait ça vraiment que le Québec nous permette de le faire, mais pour l'instant la réponse est non.
C'est assez difficile, effectivement. Ben écoutez, merci de votre temps, Bastien Théron. Je pense que là, les gens connaissent un peu plus. Puis je vous rappelle, si vous voulez avoir de l'information sur les produits Théron, c'est le www.theron-ev.com. Alors, vous aurez toute l'information sur, évidemment, le produit Reaver et sur la compagnie. Alors, merci, Bastien Théron, et on se tient au courant quand il y a d'autres projets. On va avoir les oreilles grandes ouvertes.
Super, merci, Benoît.
Merci beaucoup. Alors, Sébastien Théron, président-directeur général de la compagnie Théron, qui fabrique un quad, un VTT qui s'appelle le Reaver. Nous, on va à la pause et au retour, notre petite chronique avec Écolo Auto et nos deux essais routiers.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Troisième partie de l'émission, on va commencer, tiens, avec une petite annonce, parce qu'il faut écouter notre balado. Hein? On est là chaque semaine. Vous pouvez aller sur le site du 98.5 FM et aller dans la section balado, généralement dans les 24 heures après l'enregistrement. L'émission est sur le site. On peut aller aussi sur Spotify, Google, Apple, les sites préférés. Et également sur annuelauto.ca. On met, nous, à jour chaque semaine information. Et sur le site de nos amis d'Écolo Auto aussi, qui mettent ça chaque semaine, l'émission. D'ailleurs, Écolo Auto, notre petite chronique de la semaine parle de l'autonomie des véhicules électriques en hiver. Oui, parce que c'est souvent une question qu'on pose. Et le froid impacte l'autonomie d'un véhicule électrique de différentes façons. Et c'est pas toujours la faute de la batterie, parce que on utilise le système de chauffage l'hiver qui, lui, va tirer du jus de la batterie. Le moteur va travailler plus fort par temps froid, dans des conditions difficiles. Donc, il y a un article qui a été fait sur Écolo Auto, qu'on va mettre d'ailleurs en ligne demain sur annuelauto.ca, qui parle justement des différents systèmes qui vont influer le bon fonctionnement des batteries en hiver. Donc, il y a eu trois études qui ont été faites, une en Norvège, une qui a été faite au Québec, qui est basée sur 2500 véhicules électriques en Amérique du Nord. Donc, c'est Écolo Auto qui a fait cette étude-là. Et chaque étude a démontré une baisse d'autonomie en hiver, mais les données vont varier beaucoup. On parle en général d'une baisse de 15 à 20 dès qu'on atteint le point de congélation. Ah oui. Donc, sous zéro, là, à zéro ou autour de. Puis, plus le temps est froid, ben plus évidemment on perd de l'autonomie. On dit qu'autour de moins 15 à moins 20 degrés, on parle plutôt d'une baisse de 30 à 50. Et là, ça peut être beaucoup. Mais en moyenne, un véhicule électrique avec une autonomie de 400 km, parce que c'est à peu près la moyenne là, qu'on a aujourd'hui, va avoir entre 280 et 320 km d'autonomie selon la température et les conditions extérieures en hiver. Donc, il vous en reste. Il y a une baisse, mais bon, beaucoup de gens le savent et vont prévoir le déplacement en conséquence de ça. Et si on a 300 km, on est quand même avec une autonomie qui est raisonnable. Et là, du côté des constructeurs, on travaille beaucoup justement à mettre des couvertes, à garder les batteries au chaud justement pour diminuer cet effet de baisse-là qui est causé par le froid. Donc, si vous voulez avoir tous les détails de l'article, C'est très simple, vous faites www.ecoloauto.com, puis demain, comme je le disais tantôt, sur annuelauto.ca, on va mettre l'article en ligne pour que les gens puissent le consulter. Voilà, c'est fait. Alain, parle-nous de ton essai routier de la semaine. Tu t'es promené en Mini Cooper. T'as eu du fun, toi, toi, là.
Oui, monsieur.
Ah,
en mini, pas juste une Cooper. Une Mini John Cooper Works. On le sait, chez Mini, les versions un peu plus sportives de chacun des modèles là, qui sont vendus par la marque, disons, britannico-allemande. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais
oui, parce que ça appartient à BMW. C'est tout à fait
exact.
Ça.
Exact. Bon point.
C'est mieux que Almando Britannico ou je sais pas trop quoi.
Oui,
là,
c'est ça, c'est surtout ça parce que l'inverse c'est un peu embêtant à dire.
Ou Germano-Britannique, peut-être.
Exact. Donc c'est ces modèles-là plus sportifs vont essentiellement toujours porter le nom de John Cooper Works. C'est un clin d'œil à un garage spécialisé qui, mon Dieu, ça remonte déjà à plusieurs années
ouais,
là,
ben, mais
depuis, depuis le temps.
C'était le préparateur de courses de Mini. Ben, appelons-le comme
non,
ça.
C'est une autre époque. Ben oui, voilà. Puis, écoute, j'ai été surpris de constater parce que, tu sais, j'ai conduit le véhicule que j'essayais. Puis, en fait, John Cooper Works s'est rendu plus une marque maintenant au sein de la marque Mini
ouais.
qu'une édition spéciale de certains modèles parce que quand on regarde, si vous allez voir sur le site de Mini, entre autres, là, c'est vraiment présenté comme une section à part parce qu'il existe une version John Cooper Works de la Cooper 3 portes, donc la voiture de base, du cabriolet, du Clubman, qui est une voiture bizarre, je sais pas dans quelle catégorie ça tombe.
C'est un petit véhicule de livraison, appelons-le comme ça. Et effectivement, en fait, t'as même des micro-sites internet sur les produits JCW, parce que John voilà. Cooper Works, on les appelle comme ça. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que depuis 2018, parce que j'étais au lancement à Berlin, du premier nouveau véhicule John Cooper Works avec moteur 4 cylindres 2 litres de BMW qui fait 301 chevaux. Et là, on a quelque chose qui marche parce que on le sait, c'est pas lourd une Mini. Et bon, évidemment, ils ont fait le lancement à Berlin sciemment. Parce que y a des autobahnes en Allemagne.
Il y a des autoroutes qui vont vite, ben oui, exactement.
Le petit monsieur, il s'était beaucoup amusé là-bas, là.
Non, absolument, puis tu fais bien de le dire, parce que, ben évidemment, on obtient des véhicules plus puissants quand on les... parce que c'est ça le but de l'opération. Mais ils sont surtout optimisés, en tout cas pour mon expérience que j'en ai, pour avoir une meilleure tenue de route et pour rendre la conduite plus grisante, sans nécessairement dépasser les limites de vitesse.
Ben, en fait, ce qui a surtout d'intéressant, c'est qu'on a été capable, sans augmenter le poids, sans augmenter de façon notoire, je te dirais, l'encombrement, d'avoir un véhicule immensément plus drôle à conduire. Parce que un moteur 4 cylindres 2 litres, c'est ça qu'on avait. Sauf que là, on arrive avec une puissance beaucoup plus grande. Et je pense que c'est, on a mis le plaisir de conduire en avant de la vitesse pure et dure. Puis je pense que c'est surtout ça qui est très plaisant dans le véhicule.
Exact. Mais puis si je reviens au chiffre que tu disais tantôt, la Cooper de base a un 4 cylindres turbo de 228 chevaux et 236 livres-pieds. C'est pas des gros chiffres, c'est pas des 600. Tu sais, il y a une espèce d'inflation du côté des fabricants pour les véhicules plus sportifs. Puis quand on regarde les statistiques dynamiques, le 0-100 km/h avec une Mini Cooper, John Cooper Works, ça se boucle en 6,3 secondes. Donc c'est pas non plus une voiture de Formule 1. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est au niveau de la suspension puis des freins, et je veux dire particulièrement les freins parce qu'ils sont très mordants.
Oui.
Ça rend la conduite super assurante, on a toujours le contrôle, la voiture, tu sais, stop vraiment. Souvent, quand on parlait de la Cooper, tu sais, dans les premières années, on disait, ah, c'est comme un go-kart, mais il y a ce sentiment-là de, justement, de, tu sais, il y a une dimension qui est assez intéressante de ce côté-là. Puis, évidemment, la suspension, elle aussi a été revue pour que la voiture colle particulièrement bien à la route quand on est en virage. Donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher un petit peu plus de plaisir, disons, sur les routes sinueuses particulièrement.
Puis surtout une Mini, parce que le centre de gravité est déjà très bas. Donc, on est vraiment collé au sol. Par contre, sachez que niveau confort, il faut pas s'attendre à des miracles.
C'est très rigide.
Le mot sèche pour décrire la suspension est un euphémisme. C'est pas sec, on dirait des fois qu'il y en a pas. Ça cogne solide. Mais bon, c'est un compromis à faire pour avoir la tenue de route et le plaisir de conduire qu'on en retire. Donc, il faut être capable d'accepter ça. Puis, il y a des très gros pneus sur une très petite auto. Et comme le centre de gravité est très bas, le débattement est très faible. Donc, il reste plus de jus, là. Une bande de roulement, ça absorbe pas fort. Pneu, là,
surtout avec les belles routes que nous avons dans le Grand Montréal, bon, disons voilà. Que vous risquez de renverser votre café s'il n'y a pas de petits couvercles sur le gobelet parce que ça cogne, ça tape. Évidemment, si vous voulez quelque chose de plus confortable ou d'un petit meilleur compromis, il y a toujours la Golf GTI chez Volkswagen ou même la Veloster N chez Hyundai qui sont plus...
Ouais, Veloster N, je vous dirais qu'on est pas mal dans les mêmes eaux. Moi, ce que j'ai conduit avec ce genre de puissance-là, c'est la Golf R, qui est 4 roues motrices, qui a 300 chevaux et qui est immensément plus confortable et surtout plus pratique parce que on a plus d'espace. Le haillon derrière, là, en baissant un siège, on a de la place quasiment comme dans une familiale. Et pour une conduite au quotidien, à mon avis, on est bien en avant. Parce que faut le dire, la John Cooper Works, dépendamment du modèle que vous allez aller chercher, on dépasse dans certains cas les 50 000. Là. Donc, c'est pas un modèle abordable.
La version de base allonge... en fait, pour si vous voulez, la version de base, il faut allonger 39
000. Ouais, 39 000.
C'est beaucoup pour une petite... C'est une sous-compacte, essentiellement.
Ouais.
Et si on paye pour, évidemment, de la performance, mais un style aussi, puis... ce prix-là explique qu'on voit très peu de mini John Cooper Works sur la route.
Voilà.
C'est un peu dommage, évidemment, pour les gens qui aiment conduire, mais en même temps, ça assure, si on veut, ça assure une certaine exclusivité là, pour ceux qui ont les moyens de s'en servir, parce qu'on en voit vraiment pas.
On n'en voit presque pas. Moi, j'ai eu le cabriolet à l'essai cet été, qui, lui, est à 51 000. Et j'ai eu que des éloges. Les gens qui voient l'auto sont en pamoison, littéralement. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie cette semaine. C'est un organisme, je pense, européen qui a fait ça. En disant qu'au Canada, Mini était la marque que les gens aimaient le plus. Pas ceux qui étaient propriétaires, mais ceux, tu disais, quelle auto vous trouvez qui est différente, qui sort des sentiers battus, tout ça, c'est Mini qui revient. Pardon, qui revient plus souvent.
Moi, je dirais une dernière chose sur ça, c'est que s'ils mettaient le même effort à faire des mini électriques qu'ils font à faire des mini turbo, ça serait vraiment spécial, mais ça s'en vient probablement.
Ben, ils n'auront pas le choix. Ils devront se rendre là à un moment donné. Bon, ben, hey, merci Alain. Ça donne une bonne idée aussi du modèle, donc qui est fort intéressant. La fiabilité, ça, c'est pas toujours égal, mais côté plaisir de conduire, garantie que vous êtes au bon endroit. Moi, je reviens sur un véhicule que j'avais essayé il y a quelques semaines, mais j'ai pas eu le temps d'une émission à l'autre d'en parler. C'est le fameux MX-30 du côté de Mazda qu'on va amener sur la route là, tranquillement. Puis c'est drôle parce que j'avais intitulé mon article un éléphant dans la pièce, en fait qui traduit, qui est un calque de l'anglais, an elephant in the room. En fait, l'expression est assez simple. Ça dit ce que tout le monde sait, que tout le monde voit, mais que personne n'ose parler. Et là, quand je dis ça, je parle de l'autonomie annoncée du modèle qui est de 161 km. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller essayer, j'en avais parlé à l'émission avec toi, Alain, j'étais allé en Norvège, essayer un modèle, en fait, qui était un mulet, qui était un châssis de CX-30 avec le moteur électrique du MX-30. Et les Japonais nous parlaient de 200 km quand on était en Norvège. Et là, on était tous incrédules en disant, voyons donc, vous voulez pas amener un modèle dans 2 ans qui va avoir 200 km? Ben non, il y en a 161, il y en a encore moins. Puis ça va être le gros problème. On peut pas aujourd'hui, même si la pensée des ingénieurs japonais est très cartésienne en disant que les gens qui font de la route utilisent généralement pas plus que 80 à 100 km par jour. Tout ça est vrai, mais personne
ne veut... C'est pas comme ça que ça marche. Le monde, là, on réfléchit pas comme ça quand on achète...
On réfléchit pas comme ça, surtout que là, t'es capable d'avoir des modèles au même prix ou moins cher que le MX-30 avec 400 km et plus d'autonomie. Donc, ça fonctionne pas. Donc, ça va être un gros problème. Bon, si on met de côté le fait qu'il y a uniquement 160 km d'autonomie, ça, c'est dans des bonnes conditions l'été. Tu sais, on parlait de réduction jusqu'à 50% d'autonomie l'hiver. Je leur souhaite malheureusement pas ça, parce que là, on va se ramasser qu'on pourra à peu près pas sortir du village chez soi avec le véhicule. Puis le problème, c'est le prix. Il est à 42 000. Tu sais, si on amenait un véhicule de 161 km avec avec un prix de 22 000, tu te dis, bon, OK, il n'y a pas gros d'autonomie, mais il est pas cher. Mais là, c'est pas le cas. Puis le modèle le mieux équipé est à 45 000, donc c'est beaucoup pour peu. Par contre, les Japonais, eux, donnaient l'excuse d'amener un autre genre de véhicule électrique sur le marché. Puis c'est un peu ça qu'on a tenté de nous expliquer dans la présentation qu'on a eue, c'est-à-dire que c'est un véhicule de proximité électrique, c'est-à-dire qui est fait pour rouler en ville, qui est fait pour rouler pas trop loin. Bon, je veux bien. C'est peut-être vrai au Japon qui est une île, c'est peut-être vrai dans des pays européens qui sont collés un sur l'autre, mais au Québec, ça peut pas fonctionner. On se rend même pas de Montréal à Trois-Rivières avec 160 km. Là. On se rend même pas à Drummondville. Exact. On va se rendre de peine et misère à Drummondville. Il va falloir arrêter. Fait que tu sais, les gens qui ont à tourner en rond payeront pas 42 000 $ pour un véhicule.
Mais là, arrête-moi, si je me trompe, mais ça veut dire que le River, le VTT...
Meilleure autonomie.
Une meilleure autonomie qu'un
Ben oui, c'est bien trop vrai. T'as absolument raison. Alors, ça, tu sais, c'est un petit peu ridicule qu'un VTT avec un moteur de 70 chevaux et 180 km d'autonomie alors qu'on n'arrive pas à faire ça. Il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a une bonne nouvelle. On parle du côté de Mazda d'amener un moteur rotatif qui va servir de prolongateur d'autonomie à partir de l'an prochain. Bon, on dit partir de l'an prochain, mais ça va probablement être un modèle 2023. Il va arriver en 22 comme modèle 23. Mais du côté de l'Europe, ce modèle-là s'en vient. Ils vont l'avoir un an avant nous autres. Il y a un réservoir de 9 litres. Si vous allez me dire, c'est pas beaucoup 9 litres, mais 9 litres d'essence, on peut quand même faire probablement une centaine de kilomètres, là, dépendamment là, de la façon qu'on roule. Mais si on m'amène un branchable, un hybride branchable avec une autonomie de 160 km puis qui va avoir un moteur qui va m'en donner 100 de plus, là, ça devient un modèle intéressant. Parce que là, on n'aura pas le syndrome de la pile morte à chaque fois qu'on prend le volant et on va être capable de faire probablement, au lieu de 160, de faire un 300 km avec le véhicule. Donc là, ça devient intéressant. Côté conduite, écoute, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est pas un gros moteur, c'est 143 chevaux, il y a 200 livres-pieds de couple. Mais c'est une batterie de 35,5 kWh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie, c'est parce que la batterie est petite. Mais d'avoir une batterie plus petite, ça a au moins l'avantage d'avoir un véhicule moins lourd. Donc, au niveau de la conduite, Mazda tenait beaucoup à garder les caractéristiques de conduite qu'on retrouve dans ces véhicules. Donc, on n'est pas allé trop fort au niveau du moteur pour justement garder cette sensation-là. Bon, moi, je pense que c'est une erreur parce que il faut regarder où est la concurrence puis tenter de se situer à la même place, surtout quand c'est le premier véhicule que tu amènes sur le marché. T'as pas beaucoup droit à l'erreur. Bon, la recharge va se faire un peu plus vite parce qu'il en reste un peu moins. Mais cela dit, est-ce que c'est un véhicule intéressant? Oui, mais moi, je vous dirais... Achetez pas le modèle 100% électrique, attendez l'hybride branchable, et là, vous allez avoir vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de voir les prix qu'on va charger pour ces modèles-là, mais pour le reste, tout est intéressant, à part le fait qu'il y a uniquement 161 km d'autonomie. Alors voilà, c'était le tour de l'émission cette semaine. Hey, merci Alain, toujours en direct de Vienne, d'avoir été là. La semaine prochaine, on va se retrouver tous les deux en studio, mesdames, messieurs.
On sera
en direct de Montréal, les deux. Et on va vous proposer évidemment d'autres informations. J'ai un Jaguar F-Type SVR à l'essai cette semaine. Je vais vous parler de ça la semaine prochaine. On se tire loin de l'électrique, mais vous allez voir, c'est intéressant. Merci à Jean-Christophe Ouellet. Merci Alain. Nous autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez prudents. Et on vous attend pour Ça tient la route. Salut bien.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.